En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, Canal Académie vous propose de suivre dans quelques instants la conférence d'Albert Fert donnée face à ses pairs de l'Académie des sciences le 4 mars 2008 sur le présent et le futur de la spintronique, sujet sur lequel il a travaillé pendant une grande partie de sa carrière et qui lui a valu, en concomitance avec Peter Grünberg, le prix Nobel de physique 2007. Nous plongeons tout de suite dans le cœur des ordinateurs où, grâce à la spintronique ou spin des électrons, cette technologie nous permet tout à la fois de démultiplier les capacités des disques durs ainsi que d'augmenter la rapidité de lecture des informations. Précisons que cette séance de l'Académie des sciences avait lieu face à un public d'académiciens mais aussi de lycéens.
Je vais vous présenter un peu la recherche qui a valu à Peter Grünberg et moi-même le prix Nobel. Je suis content de l'exposer à mes confrères de l'Académie, à un public très vaste et en particulier à une quinzaine de lycéens venus de toute la région parisienne. Alors évidemment, ce lycéen, académicien, ça va être le grand écart, mais on a essayé de compenser ce grand écart. On n'a pas proposé d'entraînement aux académiciens et on a entraîné sérieusement les lycéens avant. Donc ils seront au même niveau peut-être. Bon. Donc je vais vous parler de spintronique. Au fond, on appelle spintronique un ensemble de phénomènes et aussi une technologie qui est basée aujourd'hui sur l'exploitation du spin de l'électron. Alors le spin de l'électron, les lycéens maintenant sont parfaitement au courant. Ils savent que c'est le minuscule moment magnétique porté par l'électron, en plus de la charge de l'électron, et qui on peut le décrire comme associé à la rotation de l'électron sur lui-même. Donc, alors que l'électronique classique utilise la charge, déplace les électrons en agissant sur la charge avec un champ électrique, eh bien, la spintronique va exploiter à la fois la charge et le spin. Et l'idée générale, qui vient des travaux qu'a évoqué M. Friedel, c'est pour cela de placer sur le trajet des électrons des couches fines de métaux magnétiques, comme le fer, par exemple. La propriété exploitée, c'est que dans un métal ferromagnétique, comme le fer, les électrons dont le spin est dirigé dans la direction de l'aimantation et dans la direction opposée ont des propriétés de conduction différentes, essentiellement des mobilités différentes. Et cette conduction dépendant du spin, en général en spintronique, comme en magnétoïsation géante, est exploitée dans des nanostructures magnétiques. On verra l'importance des nanotechnologies pour le développement de la spintronique. Donc, en exploitant cette influence du spin sur la conduction dans des nanostructures magnétiques, on fait apparaître divers effets de spintronique, le premier et le plus connu étant la magnétoïsation géante, Giant Magnetorization, GMR en anglais. Il y en a d'autres, la TMR, Tunneling Magnetoresistance, et il y a d'autres développements récents. La GMR est bien connue parce qu'elle a déjà permis de nombreuses applications. On lit aujourd'hui le disque dur de nos ordinateurs en détectant les champs magnétiques sur le disque avec des multicouches et la GMR. Et il y a d'autres applications de la GMR dans des capteurs divers, j'en parlerai. La TMR also commence à avoir des applications, en particulier dans le nouveau type de mémoire d'accès rapide qui s'appelle MRAM. Et puis aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, c'est une explosion de recherche dans des directions très diverses. Les phénomènes de transfert de spin, par exemple. Je décris rapidement les phénomènes de transfert de spin, parce que c'est une jolie idée. Dans une expérience de transfert de spin, on renverse l'aimantation d'un corps ferromagnétique, on renverse un aimant, sans appliquer aucun champ magnétique, mais simplement par une espèce de transfusion de moments angulaires de spin amené par un courant électrique. C'est une transfusion, on introduit du magnétisme à distance. Et ça peut être utilisé soit pour renverser une aimantation, et ça, ce sera appliqué dans la prochaine génération de MRAM, de mémoire, ou bien encore, dans d'autres conditions, pour provoquer des oscillations à des fréquences dans la gamme des hyperfréquences, du gigahertz. Et ça, ça va aussi avoir prochainement des applications importantes pour les communications, pour les télécommunications. C'est un domaine très vaste qui se développe aujourd'hui. Il y a d'autres domaines très prometteurs, qui sont, par exemple, la spintronique avec semi-conducteur, aller vers une fusion plus complète entre électronique classique et spintronique, ou comme il y a un début d'électronique moléculaire, de la spintronique moléculaire qui, à mon avis, est très prometteuse. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous parler des bases physiques et des premiers effets, la GMA, et puis je crois que j'insisterai surtout sur les développements actuels, transfert de spin, spintronique avec semi-conducteur, spintronique moléculaire. Alors, je commence par la physique de base. La physique de base, c'est donc l'influence du spin sur la conduction électrique dans un métal ferromagnétique comme le fer. Eh bien, vous savez que dans un métal, les énergies des électrons sont dans des bandes d'énergie. Et la caractéristique d'un métal magnétique, c'est qu'il y a un décalage sur l'axe des énergies entre les bandes de spin dit majoritaire et de spin minoritaire, spin up, spin down. Ces bandes sont remplies jusqu'au niveau de Fermi, ce qu'on appelle l'énergie maximum, qui est le niveau de Fermi. Ça, on vous a entraîné sur ces questions-là. Et la différence de population des bandes de spin-up et des spin-down correspond à l'aimantation spontanée. Il y a plus de spin majoritaire que de spin minoritaire. De plus, si on considère le transport d'électricité, le courant électrique, qui est contrôlé par les états électroniques près du niveau de Fermi, eh bien on voit que ces états sont différents pour les deux directions de spin, et donc, en gros, de façon très générale, les propriétés de conduction vont être différentes pour les deux directions de spin. On peut, en première approximation, décrire cette conduction par une conduction par deux canaux en parallèle, spin-up, spin-down. Et le contraste entre les deux canaux, ce rapport alpha, par exemple, résistivité down sur résistivité up, ce contraste peut être très élevé, surtout si on dope en plus le métal magnétique avec des impuretés qui ont une section efficace de diffusion, une section efficace de freinage des électrons, qui aussi dépend fortement du spin. Donc, il y a une très forte différence de mobilité. C'est surtout la mobilité qui est différente. Là, on augmente le contraste avec des impuretés bien choisies et on peut obtenir des contrastes très forts entre les deux canaux. Ce type de résultat n'est pas neuf. C'est un résultat de ma thèse que j'ai présentée en 1970. Et à l'époque, ces propriétés étaient comprises dans le cadre des modèles de structure électronique développés dans l'école Friedel lui-même, Gauthier à Strasbourg. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'interprétation, mais comment est déterminée la résistivité, la section efficace de freinage pour les électrons de ces impuretés, ça dépend essentiellement du niveau de la position en énergie, du niveau des impuretés par rapport au niveau de la bande pour chaque direction de spin. Donc c'est des choses qu'on comprenait déjà assez bien à l'époque, même si les calculs numériques de structure électronique ont permis de faire progresser la connaissance. Et à cette époque-là, déjà, certaines impuretés contenaient déjà, nous avions le concept de la GMR dans certains types d'expériences sur des alliages ternaires. Donc, supposons le nickel, dans le nickel, je mets des impuretés A et B qui ont des asymétries de spin opposées, c'est-à-dire les électrons de spin down vont être freinés par l'impureté A, qui par contre va laisser le canal de spin up libre, et le contraire sera fait par les impuretés de spin B. Donc, on met les impuretés A et B en même temps dans le nickel, aucun canal ne reste libre. Les électrons sont freinés dans les deux canaux, la résistivité est fortement augmentée, c'est ce qu'on voit dans ces résultats expérimentaux de l'époque, de ma thèse, où pour 1% au total de cobalt et de rhodium, la résistivité, au lieu de varier linéairement entre les deux extrêmes, eh bien, est fortement augmentée au milieu. Au contraire, si on choisit deux impuretés A et B qui ont la même asymétrie de spin, elles vont opposer des obstacles à la circulation des électrons dans le même canal, mais laisser l'autre canal libre, il n'y aura pas la même augmentation de résistivité quand les deux sont ensemble dans le même nickel. Au fond, quel est le concept de la magnétorescence géante? Remplacer les impuretés A et B par des couches magnétiques A et B. Cependant, les équations de conduction électrique nous disent que les électrons ne pourront sentir l'aimantation respective de deux couches que si la distance entre les couches est inférieure à ce qu'on appelle le libre parcours moyen des électrons. et c'est-à-dire en pratique dans les couches minces inférieures à quelques nanomètres. Donc à l'époque, il était impossible de fabriquer des multicouches, des empilements de couches avec des épaisseurs aussi fines, quelques nanomètres. Donc moi, j'ai mis quelques idées au frigidaire et j'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets pendant un certain temps. Et puis, au milieu des années 80, il est apparu que les technologies développées pour la microélectronique allaient permettre de fabriquer, de déposer des couches ultra minces dans cette gamme d'épaisseurs, en particulier la méthode d'épitaxie par jet moléculaire, un dépôt sous ultravide. Il se trouve que mon ancien doctorant Alain Fiedrich développait cette technologie dans son groupe à Thomson CSF. On a discuté un jour dans un congrès à San Diego, c'était au bar de la piscine le soir sous les palmiers, et on a décidé d'une collaboration pour fabriquer des multicouches magnétiques, c'était vers 1985, avec cette méthode. Donc ce qui aboutit à la fabrication de ce type de multicouches, 3 couches atomiques de fer, 3 couches atomiques de chrome, 3 couches atomiques de fer, donc les dimensions adéquates. Pourquoi le choix de fer chrome? Parce que Peter Grönberg avait montré que dans ce système, il existait pour 3 couches de chrome, justement, il existait des couplages d'échange. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est un couplage d'échange, entre les aimantations de couches de fer successives, qui les plaçaient en direction opposée, une configuration antiparallèle. Donc c'était le système idéal qui permettait de passer en appliquant un champ magnétique de antiparallèle à parallèle et de mettre en pratique le concept dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça donnait la découverte de la GMA. Ceci, ce sont nos résultats Orsay, ce sont les résultats de Peter Grönberg à Jülich à peu près simultanément. Et donc, qu'est-ce que la magnétoïsson géante? On mesure la résistance électrique de ce millefeuille, de cette multicouche fer-chrome. Et la magnétoïsson, c'est cette chute brutale de résistance qui est induite par l'application d'un champ magnétique, c'est-à-dire pour le passage de antiparallèle à parallèle pour des épaisseurs très fines, l'effet maximum étant obtenu pour 0,9 nanomètres de chrome. Donc, l'interprétation, eh bien, c'est la même que pour les alliages ternaires, c'est-à-dire que quand les aimantations sont parallèles, supposons que la direction de spin parallèle à l'aimantation passe plus facilement dans les couches de fer, les spins de cette direction vont pouvoir passer facilement toutes les couches, ça va faire un court-circuit par ce canal. Au contraire, dans la configuration antiparallèle de champ nul, eh bien, dans chaque canal, une fois sur deux, les électrons seront freinés et la résistivité sera beaucoup plus haute. C'est des effets maintenant qui peuvent être beaucoup plus élevés encore que dans ces premières expériences et qui peuvent aussi être produits par des champs très faibles. La condition étant évidemment que les épaisseurs soient de l'ordre de grandeur ou plus petites que l'hyperchrome moyen, 0,9 nanomètres. Donc la première remarque que je veux faire, c'est qu'au fond, c'est cette découverte qui a donné le coup d'envoi ensuite de tout ce que je vais raconter. Ça vient d'une rencontre entre une physique de base qui était développée à la fin des années 60 dans au laboratoire de physique des solides d'Orsay, pour lequel on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que la compréhension de l'influence du spin, de la rencontre de cette physique de base avec des progrès technologiques. C'est une chose générale qui arrive en recherche. Souvent, les découvertes arrivent de la rencontre de deux progrès dans deux domaines différents, à l'interface entre deux domaines, ou de la rencontre entre de la physique de base et des progrès technologiques. En fait, la suite du développement de la spintronique est venue beaucoup des progrès, ça c'est un premier exemple de nanotechnologie, des progrès successifs des nanotechnologies. Vous verrez par la suite qu'on travaille maintenant sur des structures beaucoup plus finement structurées que ces simples multicouches, structurées dans les trois dimensions. Bon, c'est venu des progrès des nanotechnologies. Au fond, les nanotechnologies sont pour nous, non seulement pour les physiciens, mais pour les chimistes, pour les biologistes, un outil qui donne plus de pouvoir à notre imagination, c'est-à-dire qui nous permet vraiment de concevoir des structures nouvelles pour faire apparaître, si on connaît bien la mécanique quantique, des effets nouveaux et de pouvoir réaliser ces structures, de les caractériser. Bien sûr, le modèle dont j'ai parlé, là, c'est une simplification extrême du modèle. Il y a d'autres effets qui apparaissent dans ces structures artificielles, comme par exemple les réflexions des électrons aux interfaces, le rôle de la rugosité des interfaces. Bon, je ne vais pas développer ces points sur un sujet qui est déjà assez ancien, sauf pour dire que ça a été décrit par des modèles de mécanique quantique. Par exemple, déterminer les coefficients de réflexion des électrons aux interfaces, c'est un problème de calcul des fonctions d'onde par l'équation de Schrödinger dans les deux matériaux pour étudier le raccordement de ces fonctions d'onde qui est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Je ne vais pas parler de tout ça. Je dis deux mots quand même pour terminer des applications. Les applications, la plus importante dont ont parlé les journaux, c'est l'application aux têtes de lecture des disques durs. Voici l'information sur une piste de disque dur est stockée sous la forme de segments dont l'aimantation est dirigée dans un sens ou dans l'autre, 0 et 1, information binaire. Et le problème de détecter les petits champs magnétiques créés par ces bits magnétiques, actuellement, depuis 1997, s'est réalisé en mettant ici une multicouche et en détectant l'aimantation par la variation de résistance de cette multicouche. Et la sensibilité de la GMR a permis de détecter des champs magnétiques plus petits, donc de détecter des bits plus petits et d'en mettre beaucoup plus dans le même disque dur. Donc, au fond, numériquement, eh bien, on est passé, juste avant l'introduction de la GMR, de 1 gigabit par pouce carré à maintenant 600 gigabits par pouce carré. C'est-à-dire des informations gigantesques. C'est devenu le disque dur, le moyen de stockage le plus dense d'informations. Ça dépassait de loin le stockage magnéto-optique qui était un peu empreinte à l'époque. Et d'autre part, ça a permis aussi, si on veut discuter les retombées économiques, de fabriquer des disques durs tout petits, de la taille d'une pièce de monnaie, et donc d'étendre la technologie disque dur à tout ce qui est électronique nomade, c'est-à-dire les baladeurs, iPods, certains téléphones portables, certains appareils photo, et donc de détendre la technologie à l'électronique grand public. Et il y a d'autres applications, il y en a beaucoup actuellement, des senseurs GMR dans les voitures, dans nos voitures pour compter les tours, pour contrôler les freins ABS, etc. C'est des applications qui ne demandent pas beaucoup de performance. Je cite une application dans les technologies biomédicales, les biopuces pour l'analyse de molécules. Biologique, par exemple, supposons le problème de l'analyse d'antigènes dans le sang, eh bien, on piège les antigènes par des anticorps correspondants. Une des méthodes développées, par exemple, par Philips, ceci, ça vient du site de la compagnie Philips, mais il y a aussi des compagnies américaines qui fabriquent ce genre de choses, on a mis dans le fluide d'autres anticorps labellés, ça c'est la traduction du mot anglais, décorés par des particules magnétiques, et un capteur GMR permet de détecter les champs créés par ces particules. Et la sensibilité est telle qu'on peut détecter simplement une molécule, d'où une forte sensibilité, la possibilité de travailler avec des capteurs très petits et d'en mettre un grand nombre en parallèle. On peut analyser en parallèle un millier de cibles différentes, hein, peut-être pas toutes en même temps, mais donc voici une des applications à la technologie des biomédicales. Avant de passer au développement actuel, je dis une seconde étape du développement de la spintronique. Au fond, la spintronique va regrouper tout un nombre d'ordres, autres effets qui exploitent l'influence du spin sur la mobilité. C'est les jonctions tunnels magnétiques. Cette fois, ce sont deux couches magnétiques, mais séparées par une couche isolante, ultra fine, disons 0,7 nanomètre, 0,6. Le résultat est le même. La résistance est différente de la jonction, de ce qu'on appelle une jonction tunnel. Le passage des électrons se fait par le phénomène quantique d'effet tunnel. La résistance de la jonction tunnel est différente pour les configurations d'aimantation parallèle et antiparallèle. La différence étant que cette fois, on va pouvoir réduire beaucoup, avec la géométrie verticale du courant, les dimensions latérales. En fait, c'est un effet qui avait été observé en France à basse température de façon difficilement reproductible par Julière en 1975. Mais qu'il avait été vraiment difficile de reproduire. Les technologies n'étaient pas encore suffisamment performantes. Et donc, on a pu commencer à le reproduire de façon régulière à partir de 1995, deux groupes, MIT, Miyazaki, pour des magnétoïssances déjà relativement fortes. Ces jonctions tunnel magnétiques ont déjà deux types d'applications. Certaines têtes dures de disques durs, et puis un nouveau type de mémoire qui s'appelle MRAM. RAM, dans votre ordinateur, vous utilisez l'ordinateur. Dans votre ordinateur, vous avez une mémoire de masse qui est le disque dur. Mais le défaut du disque dur, même si sa mémoire est fantastiquement grande, c'est que le temps d'accès à un bit est très long. Une milliseconde pour accéder à un bit d'information, ce qui est beaucoup trop long pour le fonctionnement des ordinateurs. Donc, quand vous allumez votre ordinateur, vous stockez une partie de la mémoire, les programmes que vous utilisez, dans des RAM, Random Access Memory, des mémoires à semi-conducteurs, d'accès très rapide, nanoseconde, mais qui ont le défaut d'être volatiles, c'est-à-dire que l'information se perd dès qu'on coupe, vous éteignez l'ordinateur, ou même pour les RAM les plus fréquentes, il faut rafraîchir la mémoire, la réinscrire à l'identique tous les millièmes de seconde. Et donc les projets, le MRAM, ce sera, il y a déjà des produits sur le marché depuis 2 ans, ce sera des mémoires où les cellules seront ces jonctions tunnels magnétiques, dont ces deux configurations correspondra à 0 et 1. Bon, il se trouve que cette première génération, développée essentiellement par Motorola, Freescale, n'aura pas beaucoup d'impact pour la technologie des ordinateurs. Bon, évidemment, ces MRAM ont déjà la qualité, par rapport aux RAM classiques, d'être non volatiles. C'est-à-dire, vous pouvez planter votre ordinateur, la mémoire reste ce qu'elle est, elle ne disparaît pas, elle ne meurt pas. Mais la prochaine génération qui se prépare aura beaucoup plus d'impact. Elle sortira dans deux ans, elle va profiter des gros progrès très récents sur l'effet tunnel, sur ces jonctions tunnel magnétiques, et d'autre part sur les phénomènes de transfert de spin. L'écriture se fera de façon beaucoup plus pratique par des phénomènes de transfert de spin, purement électroniquement. Je dis deux mots assez rapidement sur les progrès récents sur les jonctions tunnel magnétiques. Ils sont venus essentiellement du passage de jonctions tunnel où la barrière isolante était une couche amorphe, c'est compliqué, une amorphe, d'alumine, à des jonctions tunnels purement monocristallines. Et la première chose à signaler, c'est qu'avec ces jonctions tunnels magnétiques, la magnétorisation tunnel est très forte, elle atteint 500%, c'est-à-dire on passe de 1 à 5 quand on passe de la configuration parallèle à antiparallèle. La physique est très belle pour expliquer l'effet tunnel dans ce genre de jonction tunnel et l'influence du spin. Et ça donne vraiment une bonne image de ce qu'il y a sous le mot polarisation de spin. On a vu que dans la conduction magnétique, la polarisation, en fait, ça peut être contrôlé par les sections efficaces des impuretés que l'on met dedans. On va voir comment aussi c'est contrôlé par le type de barrière quand elle est monocristalline, pourquoi ça marche si bien avec ce genre de jonction tunnel monocristalline. Au fond, dans une jonction tunnel, le courant est transporté par des ondes évanescentes, des ondes dont l'intensité décroît exponentiellement. Pour les physiciens de la matière condensée, ce sont des ondes de bloc à vecteur d'ondes complexes, hein, la partie imaginaire étant décrivant la décroissance exponentielle. Et dans un cristal périodique, eh bien, les fonctions de bloc peuvent être classifiées en fonctions de bloc de diverses symétries qui ont des longueurs de décroissance différentes. Le point clé, c'est que pour des structures de très très bonne qualité, ces fonctions évanescentes d'une symétrie donnée ne se raccordent aux interfaces qu'aux fonctions de blocs, aux fonctions des électrons mobiles dans les électrodes, qu'aux fonctions de même symétrie. Et pourquoi cette jonction tunnel a une si belle magnétorésistance ? C'est parce que pour cette symétrie delta 1 dont j'ai parlé, elle est bien représentée au niveau de Fermi de la bande de spin majoritaire, et elle n'est pas du tout représentée au niveau de Fermi de la bande de spin minoritaire. Donc, si vous voulez, à quoi on joue dans ce genre de structure ? On joue non pas à tester la polarisation globale en spin d'un métal, mais on va utiliser la barrière pour sélectionner la symétrie des fonctions d'onde et même la direction du vecteur, c'est-à-dire la position dans la zone de Brillouin sur la surface de Fermi, pour lequel cette polarisation de spin, ce contraste en spin, est le plus important. Donc c'est une très belle physique. On arrive, que ce soit avec des impuretés dans la conduction métallique, soit en choisissant les jonctions tunnel et les orientations dans la conduction tunnel, à vraiment sélectionner des électrons pour lequel le contraste entre les deux directions de spin est très élevé. Ce n'est pas la seule solution, puisqu'il y a aussi d'autres recherches actuellement, la recherche de matériaux qui seraient polarisé à 100%, c'est-à-dire qui serait demi-métallique, qui serait métallique pour une direction de spin et isolant pour l'autre. Donc je vais passer maintenant à ce qui se fait actuellement en spintronique, dans ce domaine qui se développe énormément, les phénomènes de transfert de spin, la spintronique avec semi-conducteur, la spintronique moléculaire. Sur ces trois axes, il y a une physique commune. Dans tous les cas, on prépare un courant polarisé en spin, c'est-à-dire prépondérant pour une direction de spin, avec un matériau ferromagnétique. Et puis on va essayer de le propager à longue distance, soit dans un autre métal, soit dans un semi-conducteur, soit dans une molécule. Et ça soulève la même physique qui est la physique d'accumulation de spin. C'est cette accumulation de spin aux interfaces qui, par diffusion, va permettre de propager à longue distance, bien au-delà de la longueur balistique, un courant de spin jusqu'à des distances qui peuvent être de l'ordre de quelques microns, dizaines de microns dans des nanotubes de carbone. Je vais décrire cette physique-là, je suis obligé d'en passer par là, que là, la loi d'Ohm n'est plus valable du tout. Hein. Donc, en fait, cette physique d'accumulation de spin est apparue quand on a commencé à comparer les résultats de magnétruissance géante pour une multicouche, dans le cas où le courant est parallèle aux couches et dans le cas où le courant est perpendiculaire aux couches. Il y a eu des premières expériences en pensant la multicouche dans des Michigan State University entre deux couches supra. Nous, on est tout de suite après, on a fabriqué des multicouches déposées dans des trous de membrane, de façon que le courant soit perpendiculaire. Alors, j'explique cette physique, c'est un peu... Bon, là, ça devient un peu plus délicat, mais bon, ce sera peut-être quelques minutes, surtout pour les physiciens. Donc, supposons une interface entre un métal non magnétique et un conducteur non magnétique. Le courant est essentiellement transporté par un canal de spin-up et puis également par les deux canaux. Et ce qui veut dire que les spin-up vont s'accumuler à l'interface. Hein. Accumulation de spin, ça veut dire quoi ? Accumulation de spin, ça veut dire que l'énergie maximum, l'énergie, le potentiel chimique, l'énergie de Fermi va être plus élevée pour une direction de spin, va être augmentée et diminuée pour l'autre, neutralité de la charge totale. Et toute accumulation diffuse. Vous savez que, par exemple, quand vous avez accumulation d'air, une forte pression, ça fait du vent qui diffuse des deux côtés. Et de même, vous avez une accumulation de spin, comme ceci, ça va diffuser des spin-up de ce côté. Au contraire, ça va attirer des spin-down de ce côté. Et ça va permettre de faire passer le courant à grande distance. En fait, l'accumulation s'étend jusqu'à ce qui s'appelle la longueur de diffusion de spin, et qui est, par exemple, 10 nanomètres dans des nanotubes de carbone. Hors d'équilibre, évidemment, va générer des transitions à renversement de spin et on va atteindre une amplitude d'équilibre quand ces transitions seront juste ce qu'il faut pour ajuster les flux. Et donc, dans cette vaste zone d'accumulation de spin, en courant perpendiculaire aux couches, c'est pour ça que ça n'existait pas dans la GMR traditionnelle, eh bien, on a une variation progressive du courant qui reste polarisé à longue distance des interfaces et qu'on va pouvoir utiliser dans des dispositifs plus commodes que les multicouches magnétiques. Donc ça peut se décrire par, évidemment, la loi d'Ohm n'est plus valable, qui dit que le courant électrique est proportionnel au champ électrique. Il y a en plus là des courants de sens opposés pour les directions de spin qui résultent du vent soufflé par cette accumulation d'un côté ou de l'autre, ou aspiré, enfin des effets de diffusion en termes scientifiques. Et c'est décrit par de nouveaux types d'équations de transport où le champ électrique est remplacé par un pseudo-champ électrique qui va dépendre du spin et de la position. Et ces équations s'appliquent non seulement à ce cas de figure, mais à des cas pratiques beaucoup plus compliquées où on a plusieurs interfaces et un overlap entre les accumulations aux diverses inverses. Je vais prendre tout de suite un exemple d'application dans la physique actuelle d'injection de spin dans les semi-conducteurs. Une difficulté qui est arrivée au début quand on a voulu injecter des spins dans les semi-conducteurs. Supposons donc potentiel chimique de niveau de Fermi pour les spin-up et spin-down des interfaces pour le même décalage d'énergie. Évidemment, du côté métallique, la densité d'état est beaucoup plus forte que du côté semi-conducteur. Ce qui veut dire qu'en fait, la quantité de spin accumulée est beaucoup plus importante du côté métallique. Et pour des temps de relaxation identiques, qui sont même en général plus courts dans les métaux, eh bien, on va avoir plus de dépolarisation du côté métallique. Et le courant va arriver complètement dépolarisé quand il arrive à l'interface. Au fond, il y a trop de spin-flip du côté métallique parce que la densité d'état est beaucoup plus forte. Donc ça a été une difficulté au début, ça a freiné un peu le développement de la spintronique avec les semi-conducteurs. La solution est quand même trouvée. Au fond, ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de relaxations de spin du côté semi-conducteur, c'est-à-dire augmenter le décalage. Et au fond, on peut faire ça en introduisant une jonction tunnel à l'interface. La jonction tunnel provoque une chute du potentiel de l'énergie, du potentiel chimique, du potentiel électrochimique, dépendant du spin, et permet d'introduire ce type de discontinuité. Et avec ce type de discontinuité, on peut rétablir l'équilibre et faire que la polarisation est progressive. Ce point-là reflète la proportion de dépolarisation d'un côté et de l'autre. Bon, ceci, c'était un peu une partie un peu sur les équations de transport, peut-être difficile pour ceux qui ne sont pas impliqués dans ce genre de domaine, pour montrer qu'il y a une physique nouvelle qui se développe en spintronique, en particulier pour ce genre de problème. Et je passe à des réalités plus expérimentales, en commençant par un concept, le concept de transfert de spin. Le concept de transfert de spin, c'est un très joli concept introduit par un physicien américain qui s'appelle John Solanzinski. Supposons que l'on utilise une première couche magnétique pour préparer un courant polarisé de spin qui va traverser une seconde couche, et supposons que la direction de polarisation est oblique par rapport à l'aimantation de cette couche, par rapport au spin global de cette couche. Eh bien, ces électrons vont pénétrer dans la couche, et dans la couche, une très forte interaction, dite interaction d'échange, va aligner la polarisation du courant avec la direction du spin global de cette couche. Et donc, ce qui veut dire que le courant a perdu sa composante transverse de polarisation. Mais la physique nous dit que l'interaction d'échange conserve le spin total du système. C'est un échange de spin entre deux systèmes. Ce qui veut dire aussi donc, que la composante transverse qui a été perdue par les électrons a été donnée au spin total de la couche. Et donc, on a transfusé du spin pour faire tourner l'aimantation. Et au fond, c'est une transfusion d'aimantation par un courant électrique. Ça va avoir beaucoup de conséquences, mais il faut des densités de courant relativement importantes. Ça se fait dans des multicouches, des tricouches, mais avec une section suffisamment petite pour que la densité de courant soit élevée. Ce type de structure, une couche qui prépare le courant et qui renverse cette couche, et puis une constriction pour permettre à la densité de courant d'être élevée, mais avec une jonction tunnel entre les deux couches magnétiques. Et je décris les deux régimes dont j'ai déjà parlé au début, c'est-à-dire il y a un régime à champ nul, à bas champ, de renversement par cette transfert de spin, renversement de l'aimantation, et puis un second régime, génération de micro-ondes, génération d'oscillations. Premier régime, eh bien, à champ nul, le courant envoyé de cette couche vers la couche rose, ici, va simplement renverser, par transfusion de spin, par transfert, l'aimantation de parallèle à antiparallèle. C'est un mouvement assez compliqué. Simplement, le transfert de spin agit comme à la même symétrie qu'un terme de friction négative, et donc agit en amplifiant des précessions progressivement et en le faisant passer finalement de l'autre côté. On détecte le renversement par une augmentation de résistance de cette tricouche, l'effet GMR. Un challenge, c'est de diminuer ces densités de courant qui sont d'un facteur 10. Par contre, ce qui est très intéressant pour les applications, c'est qu'on peut arriver à commuter une aimantation dans des temps de l'ordre de dixième de la nanoseconde, ce qui est très intéressant pour le renversement des mémoires, par exemple. Ça accélère même par rapport au RAM à semi-conducteurs actuel. Ça, c'est un premier régime. Je parlerai des applications. Le deuxième régime, supposons qu'on mette un champ pour retenir l'aimantation. Eh bien, on peut arriver, dans ces conditions, à établir un équilibre entre le couple de transfert de spin qui va chercher à éloigner l'aimantation de sa position de départ et le couple de friction, et on arrive à des états de précession entretenue. Au fond, équilibre de la friction par la friction négative, deux trajectoires diverses. Dans les courbes de résistivité en fonction du courant, cette fois, le cycle irréversible est remplacé par ces petits pics qui traduisent la précession. Mais surtout, si on met un spectre pour l'analyse en fréquence, eh bien, on voit une puissance micro-onde apparaître à une certaine fréquence, qui est la fréquence de précession. Donc, on a un générateur d'oscillation dans la gamme entre 1 GHz gigahertz à 40-50 gigahertz selon la densité de courant que l'on met dans la structure. C'est une physique très belle, là, cette physique de transfert de spin, parce qu'elle combine divers aspects. La détermination du couple, le transfert de spin, c'est un problème de conduction électrique. Il faut déterminer la polarisation, la composante transverse de la polarisation de spin du courant. Et par contre, tous ces problèmes de précession entretenus, ce sont des problèmes de dynamique non linéaire qui n'ont rien à voir avec la physique de la matière condensée, mais qui sont aussi passionnants. Et les deux sont interconnectés de telle sorte qu'en changeant un peu les paramètres de conduction, on peut arriver à changer complètement la dynamique de ces oscillations. En introduisant des temps de relaxation de spin très différents dans les deux couches magnétiques, c'est-à-dire en torturant de façon un peu bizarre les profils d'accumulation de spin dont j'ai parlé, eh bien, on arrive à changer complètement la dépendance angulaire du couple de transfert de spin, à lui faire la distordre aussi suffisamment pour arriver, et c'est un objectif appliqué, pour arriver à avoir ce type d'oscillation à champ nul. Il est clair que si on veut mettre un oscillateur à transfert de spin dans son téléphone portable, il y a un certain intérêt à ne pas être obligé d'avoir aussi un électroaimant dans son téléphone portable. Donc, un enjeu économique, c'était d'arriver à avoir ces précessions, ces oscillations. Application de ces phénomènes de transfert de spin, eh bien, la prochaine génération de MRAM qui se prépare eh bien, utilisera le transfert de spin pour commuter l'aimantation. Et donc, la prochaine génération marche très bien, apparemment, d'après les annonces de Sony, de Hitachi et d'autres compagnies, avec une commutation de l'aimantation d'une des électrodes par transfusion de spin. Et ça diminue par un facteur de l'ordre de 2 ordres de grandeur les densités de courant nécessaires aussi à l'écriture de ces jonctions tunnels. Donc c'est vraiment quelque chose qui va marcher prochainement. L'autre application, c'est ce qu'on appelle déjà les STO, Spin Transfer Oscillator. Bon, c'est générer des ondes radio dans la gamme du gigahertz avec ces oscillations de transfert de spin, avec un certain nombre de qualités que je ne vais pas décrire. Les fréquences sont relativement fines, surtout ce qui est la grande qualité, c'est l'agilité, la possibilité de bouger la fréquence simplement en modulant le courant d'essai que l'on fait passer dans le pilier, par exemple. L'inconvénient actuellement, c'est que ces petits piliers de l'ordre du dixième de micron émettent une puissance très très faible. Et donc l'enjeu pour le futur, pour le développement technologique, c'est de synchroniser un certain nombre d'oscillateurs pour les multiplier n oscillateurs synchronisés. La puissance va augmenter par N2. Il y a déjà 2 résultats aux États-Unis, au fond, dans la même couche magnétique, ces gens-là provoquent des oscillations, des précessions d'aimantation à des positions voisines de la même couche. Comme les oscillations sont émises dans la même couche magnétique, elles vont se coupler. C'est au fond l'équivalent moderne des expériences de Huygens. Huygens, dans son lit de maladie, regardait 2 pendules sur le mur d'en face et voyait qu'il avait beau les désynchroniser, au bout d'un certain temps, il se synchronisait. Pourquoi ? Il a compris que c'était parce que chacun émettait des vibrations dans le mur sur lequel étaient mis les horloges. Et ce mécanisme d'émission de vibrations dans le même mur était une méthode de couplage qui est utilisée dans ce genre d'expérience. Nous, on utilise une mode de couplage qui rappelle plus le couplage des oscillations de jonction de Josephson, en supraconductivité, c'est-à-dire une connexion électrique qui permet de faire passer un courant hyperfréquence alternatif dans ce circuit. Je vais parler alors de quelques nouvelles directions, spintronique avec semi-conducteur et avec molécules. Semi-conducteur, c'est évidemment attractif de travailler avec des semi-conducteurs, au fond, pour combiner le potentiel des semi-conducteurs, c'est-à-dire le couplage avec l'optique qui n'existe pas avec les métaux, ou bien encore la possibilité de moduler le courant avec un potentiel de grille, avec un champ électrique, et puis le potentiel de la spintronique, c'est-à-dire la non-volatilité, le caractère permanent des mémoires, ou également d'autres concepts que l'on peut proposer pour moduler le courant en agissant sur le spin et non pas sur la charge. Je dirais qu'il y a plusieurs routes qui sont suivies en parallèle actuellement. La première route, c'est combiner, faire des structures hybrides, combinant des métaux magnétiques avec des semi-conducteurs. Il y a de petits problèmes. Pour injecter à partir d'un métal dans un semi-conducteur, il faut introduire une jonction tunnel à l'interface. Mais ça marche. Ça, c'est un exemple d'expérience réussie à plusieurs exemplaires. À partir d'un métal comme le fer, on injecte à travers une barrière tunnel d'alumine dans ce qu'on appelle une diode émettrice de lumière, typique dispositif semi-conducteur. Et la polarisation du spin se traduit et est détectée par l'émission d'une lumière polarisée circulairement. Donc c'est ce qu'on appelle une spin LED, une diode émettant de la lumière polarisée circulairement. L'autre chemin, c'est fabriquer à partir de semi-conducteurs classiques, des semi-conducteurs ferromagnétiques. Alors il y a un très beau résultat, c'est l'arsenone de gallium dopé au manganèse. Ce matériau a révélé vraiment des propriétés très intéressantes. Pour les applications, c'est vraiment... Bon, sa température de Curie est trop faible. Il n'est plus magnétique au-dessus de 170 Kelvin. Et donc, il y a beaucoup de travaux actuellement pour trouver des semi-conducteurs ferromagnétiques à température ambiante. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais que, d'après moi, la situation est encore très, très confuse dans ce secteur-là. On va voir peut-être plus tard, mais actuellement, il n'y a pas vraiment de matériaux sur lesquels on puisse se baser. Semi-conducteurs ferromagnétiques. La recherche est très active sur ces deux chemins. Il y a eu pas mal de résultats fondamentaux intéressants. Je dois dire, comme ça arrive souvent dans notre communauté, les annonces d'application ont peut-être été un peu trop rapides. Par exemple, il y a eu beaucoup d'annonces sur ce type de dispositif et beaucoup de travail aussi du même coup. C'est ce qu'on appelle le transistor à effet de champ à spin. Au fond, c'est une structure avec un canal entre source et drain magnétique, ferromagnétique. Donc les états passants et non passants, dans le langage des semi-conducteurs, sont supposés être les états correspondant aux aimantations alignées ou en sens opposé pour la source et le drain. Et puis un certain nombre, une dizaine de concepts ont été proposés pour renverser les spins avec une grille entre les deux et pour faire passer de on à off. La condition essentielle, c'est quand même qu'il y ait un contraste entre les états de configuration parallèle et antiparallèle. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une grille pour faire passer de l'un à l'autre. Et les résultats ont été assez limités. Mills et Bland écrivent que le contraste n'a jamais dépassé dans ce genre de structure 1%, ce qui est vraiment ridicule. Il y a encore du travail à faire pour les semi-conducteurs. Il faut bien contrôler la transmission aux interfaces. Il faut qu'elle soit suffisamment opaque pour permettre l'injection de spin et suffisamment transparente pour que ces conditions soient vérifiées. Ça montre aussi le potentiel de la spintronic moléculaire, les nanotubes. Le graphène est très prometteur. Il y a d'autres molécules qui sont prometteuses aussi. Le prochain challenge, c'est pour les molécules arriver aussi à contrôler le spin par une grille. Et ça, il y a plusieurs concepts que l'on peut imaginer et qu'il faut maintenant tester. Je dirais d'ailleurs qu'il y a d'autres résultats sur les molécules qui sont prometteurs. Par exemple, sur ce dernier résultat, nous avons obtenu pour des molécules de ALQ3, un système compliqué, coincé entre deux électrodes magnétiques. Ce système marche bien aussi, il donne sans beaucoup d'efforts, 300% de magnétorésistance, ce qui est une bonne performance pour un premier résultat. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. J'aurai trois sortes de conclusions. Une conclusion sur la spintronic, sur l'évolution de la spintronic. C'est un domaine relativement nouveau, bon, un peu moins de 20 ans. C'est une science jeune, mais elle pousse très bien par rapport à l'électronique. La spectronique, c'est un tout petit bébé encore, mais enfin, il va peut-être encore un peu pousser. Ma deuxième conclusion, c'est une conclusion, un message pour les jeunes. C'est pour vous dire que le métier de scientifique, chercheur, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant, c'est un métier où on crée des choses. C'est ça qui est passionnant, où compte beaucoup l'imagination. On imagine des choses dans sa tête, si on a une bonne base en physique. On les teste, on les construit, on les déconstruit. Il faut beaucoup d'esprit critique, évidemment. Il ne faut pas imaginer n'importe quoi. Et ensuite, on les teste par expérience. Et finalement, ce qui est fascinant, c'est que des pures constructions de l'esprit, se concrétise dans, premièrement, dans des résultats expérimentaux et ensuite dans des dispositifs. Vous comprenez bien que c'est pour Peter Grönberg et moi, c'est gratifiant de voir que l'iPod où j'écoute ma musique marche sur une construction d'idées, une certaine idée que j'ai eue à une certaine époque. Ça, c'est un sentiment gratifiant. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment impressionné par l'accumulation de résultats fantastiques par des chercheurs fantastiques qui m'avaient précédé dans la carrière. Je doutais fort de pouvoir introduire un petit truc à moi-même dans cette accumulation. Et puis, je me suis aperçu que ça marchait plus facilement que ça, que même dans une thèse faite, je n'avais pas l'impression de faire une thèse extraordinaire, mais qu'en faisant des manips sérieuses, en discriminant les résultats, en l'interprétation des résultats, eh bien, finalement, ça avançait, ça ouvrait des portes, qui ensuite allaient ouvrir des portes, allaient ouvrir d'autres, et on est émerveillé de savoir comment ça marche bien, finalement, qu'il y a de l'espace. Donc, et finalement, quand je regarde les résultats de ma thèse, bon, eh bien, c'est une partie de la base de la spintronique aujourd'hui. Ça veut dire qu'un petit chercheur avait ouvert certaines portes, qu'il en a ouvert d'autres, et ça marche comme ça. Donc, il y a de l'espace pour vous. Hein. Ça, que ce soit comme chercheur ou comme ingénieur, il y a des choses à faire. Je vous dirais une autre chose, c'est que la physique maintenant, la science en général, la recherche, ça devient un travail collectif, parce que les technologies dans le domaine sont très lourdes, donc ça devient un travail d'équipe, et ça, d'après moi, c'est un plus, travailler en équipe, c'est un plaisir supplémentaire, que je vous signale aussi, c'est un peu comme peut-être vous jouez au football, vous êtes dans une équipe, et vous retrouverez un peu le même état d'esprit dans une équipe de recherche. D'ailleurs, ça introduit ma dernière projection, qui est simplement les remerciements à mon équipe, aux gens qui ont travaillé avec moi, et puis à diverses collaborations dans divers laboratoires un peu partout. Voilà, et je vous remercie tous pour votre attention.
Vous venez d'entendre Albert Fert, physicien membre de l'Académie des sciences. Il développait au cours de sa conférence le présent et le futur de la spintronique, des recherches qui lui ont valu avec Peter Grönberg le prix Nobel de physique en octobre 2007. Albert Fert s'exprimait devant ses confrères académiciens, mais aussi devant des lycéens. Poursuivez votre rencontre en compagnie d'Albert Fert en écoutant notre seconde émission en habit vert. Le physicien évoque cette fois ses souvenirs d'enfance, ses années d'études et sa passion pour le windsurf. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.